Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et jusqu'à 11h heure de Paris, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Nous reviendrons dans une demi-heure sur la situation au Burkina Faso après l'assaut mardi soir lancé par les militaires wallahistes contre les derniers putschistes qui refusaient de se rendre. Le régiment de sécurité présidentielle a donc été désarmé de force. Plusieurs soldats de cette unité ont déjà regagné les rangs de l'armée régulière. Alors que vous inspire ce dénouement? Quel avenir pour le général Diendéré qui a trouvé refuge dans une représentation diplomatique à Ouagadougou? D'ailleurs, on nous annonce que des négociations sont en cours avec les autorités pour obtenir sa reddition. Nous parlerons également de cette décision de la justice de geler les avoirs de 14 personnalités, dont le général Diendéré, l'auteur du coup d'État, mais aussi les comptes du CDP, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous êtes toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines à souhaiter réagir à ces derniers événements au Burkina Faso, donc n'hésitez pas, je lirai quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Ismaël nous appelle de Nanterre, il est en région parisienne. Bonjour Ismaël.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous avez des questions concernant les élections régionales du mois de décembre en France?
Oui. En fait, j'ai appris que le Front National était donné gagnant aux prochaines élections régionales dans les nouvelles régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Oui.
En fait, j'ai deux questions. Les premières, quel est le programme de Marine Le Pen dans cette région?
Ah, le programme de Marine Le Pen qui est effectivement, si on en croit un dernier sondage, largement favorite dans cette région du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Un sondage qui nous annonce qu'elle arriverait en tête au premier tour et ensuite elle l'emporterait largement au second tour avec 39%. Pierre Firsion, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service politique des RFI. On va essayer de comprendre le succès de Marine Le Pen dans cette région. Marine Le Pen qui semble aujourd'hui la mieux placée au Front National pour que ce parti remporte sa première région. Quel est concrètement son programme dans le nord de la France?
Alors, pour l'instant, on ne le connaît pas encore. Elle a prévu de détailler ses propositions qu'à la fin du mois d'octobre, mais elle a déjà donné quelques pistes, notamment en matière économique. Elle propose de donner la priorité aux entreprises régionales dans les marchés publics. Ces mêmes marchés publics, qui a-t-elle promis, ne seront plus attribués aux entreprises qui délocalisent, pratiquent des licenciements boursiers ou rechignent à embaucher en CDI. Marine Le Pen, qui entend également économiser l'argent public en limitant par exemple les coopérations décentralisées, des coopérations qui, vous savez, se pratiquent avec des régions étrangères. Mmh. Autre proposition, que les cantines privilégient les produits français, ou encore en matière de sécurité, que la télésurveillance soit développée. Bref, on le voit, ce ne sont là que des mesures assez générales qui ne sont pour l'instant pas chiffrées.
Oui, vous avez d'autres questions, Ismaël?
Oui, la deuxième... Pourrait-il y avoir des changements si jamais elle gagne?
Si jamais elle remporte ce scrutin, difficile à dire pour l'instant, Pierre.
Oui, c'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas encore précisément les détails de ses propositions. Néanmoins, on peut imaginer que si Marine Le Pen arrive à la tête de la région, elle essaiera de faire du Nord-Pas-de-Calais-Picardie une sorte de laboratoire et d'essayer de mettre en œuvre la politique qu'elle préconise au plan national. Car les régions, Rouen, ont aujourd'hui de nouvelles compétences suite à la réforme territoriale. Désormais, les 13 grandes régions de l'Hexagone vont jouer un rôle clé en matière de développement économique. Elles vont s'occuper de l'aménagement du territoire, de la formation professionnelle, de la gestion des lycées et des transports. Et elles pourront également jouer un rôle de coordination en matière d'emploi et un rôle moteur sur les questions d'environnement.
Et j'imagine que sur tous ces points, Marine Le Pen va essayer de faire parler d'elle.
Ah, et d'autant qu'un an et demi après les régionales, il y aura l'élection présidentielle. Et si Marine Le Pen est élue à la tête de la région, elle l'a déjà dit, elle laissera son fauteuil de présidente à l'un de ses soutiens, mais elle se servira de la région pour mettre en place des mesures symboliques, pour marquer les esprits, que ce soit en matière économique, en privilégiant, comme elle l'a déjà annoncé, les entreprises régionales, ou en demandant, par exemple, comme elle l'a déjà promis, le remboursement des subventions publiques aux entreprises locales en cas de licenciement. On peut déjà imaginer qu'elle essaiera de frapper fort en matière de sécurité dans les transports, ou qu'elle taillera fortement dans les dépenses publiques et notamment dans les subventions aux associations, des pistes qui suscitent déjà l'inquiétude de ses opposants. Hein. À droite, on redoute notamment que les investisseurs fuient le Nord-Pas-de-Calais-Picardie si le FN venait à l'emporter, ce qui serait problématique, hein, car le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est la troisième région de France en termes de population.
6 millions d'habitants.
Près de 6 millions d'habitants qui vivent sur ce territoire.
Et rappelons que c'est tout de même le fief historique de la gauche.
Cette région a toujours été à gauche.
Et oui. Pierre Firsiaud, merci beaucoup d'être venu répondre à Ismaël qui nous appelait de Nanterre. Je vois Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Vous avez pris un abonnement cette semaine. Hein. Vous êtes là tous les matins.
Ouais, j'espère que j'aurai droit à une remise à la fin.
On va s'arranger évidemment. Alors on vous a demandé de venir, on a reçu des questions sur Michel Platini puisque pour la première fois le nom de Michel Platini est cité dans une enquête judiciaire visant la FIFA et son président Sepp Blatter. Bonjour Jafar.
Bonjour Juan, bonjour Alejandro Valente et à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez du Burundi, on vous écoute.
Effectivement Juan, la semaine dernière, j'ai appris sur vos antennes que Sepp Blatter a été mis en cause par la justice suisse pour paiement illicite de 1,8 million d'euros à l'encontre de Michel Platini. Alors, je voudrais savoir quelles activités Platini a-t-il concrètement fait?
Ah, ça c'est une bonne question, puisque dès le début, on nous dit qu'effectivement Michel Platini a perçu cette somme, hein, 1,8 million d'euros. À l'époque, entre 1998 et 2002, il était conseiller auprès de la FIFA. Maintenant, on n'en sait pas plus, ça reste assez flou tout de même, Alejandro.
Oui, enfin, Michel Platini a donné quand même des explications sur ses activités. Disons qu'à l'époque, Blatter venait d'être élu à la présidence de la FIFA. Platini l'avait soutenu, donc Blatter lui commande de lui demande de réfléchir à un certain nombre de dossiers. Par exemple, Blatter avait l'idée d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans au lieu des 4 ans. Mmh. Donc Platini a dû travailler là-dessus. Finalement, Blatter a abandonné cette idée. Il a travaillé sur les calendriers internationaux, sur le développement du football dans les pays en difficulté, enfin divers sujets. Et il semble qu'à l'époque, il s'était pas mis tout à fait d'accord sur le montant d'argent que Platini allait toucher pour tous ses travaux, qu'il faisait avec 2 collaborateurs. Et, au début, il a reçu 900 000 euros. Mmh. Et puis Platini voulait 3 fois plus. Blatter lui avait expliqué que la FIFA ne pouvait pas lui payer cette somme, mais apparemment ils s'étaient mis d'accord pour la payer ultérieurement. Le gros problème pour Platini aujourd'hui, c'est qu'apparemment cet accord n'a pas été acté et il n'y a pas de contrat spécifiant le montant total de la somme que Platini devait toucher.
Donc il n'y a pas de trace écrite.
Voilà, donc Platini apparemment a relancé plusieurs fois Blatter. Finalement, il a fini par recevoir ses compléments qui, selon lui, faisait l'objet de l'accord plusieurs années plus tard, donc en 2011, les 1,8 million d'euros qu'évoquait Jafar, mais Platini dit l'avoir déclaré au fisc,
tout
etc.
à fait. Conformément à la loi suisse.
Voilà. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun contrat, aucun accord écrit à l'époque où Platini a fait cette activité, qui spécifiait les montants globaux qu'il devait toucher. Donc cette somme complémentaire qu'il reçoit 9 ans plus tard apparaît un peu floue. Et c'est pour ça que le procureur général suisse, Michael Lobert, a démenti Platini qui disait qu'il avait été entendu en tant que simple témoin. Il a dit non, il est entre témoin et accusé. Donc c'est quand même pas si simple que ça.
En tout cas, la justice poursuit évidemment son enquête. Vous avez une autre question, Jafar?
Oui, est-ce que cette procédure pénale n'affaiblit pas la candidature de Platini à la FIFA? Est-ce aussi une opportunité pour ses concurrents?
Alors, c'est évidemment une opportunité pour ses concurrents et notamment pour le prince Ali de Jordanie, son principal adversaire. En tout cas, Platini, là, pour l'instant, il reste déterminé à se présenter à la fin du mois à la présidence de la FIFA.
Oui, mais il n'est pas seul à décider tout ça, parce que si jamais son statut devait évoluer auprès de la justice suisse, les choses pourraient se compliquer. Et surtout, même si on n'a pas moyen de confirmer officiellement, il semble bien que la commission d'éthique de la FIFA examine actuellement le comportement de Blatter et Platini dans cette affaire. Et si la commission d'éthique décidait de suspendre Michel Platini et de ne pas valider sa candidature, eh bien le projet de Platini visant à présider la FIFA tomberait à l'eau et même son activité de président de l'UEFA pourrait être en danger.
Platini, donc, probablement éclaboussé. En tout cas, il va devoir convaincre les enquêteurs, mais aussi la commission éthique de la FIFA. On a une date pour cette rencontre?
Aucune date. Aucune pas date du pour tout. L'instant. Par contre, la seule date importante qu'on connaît, c'est que le 26 octobre, les candidatures... c'est la date limite pour déposer les candidatures. Pour l'instant, Platini veut être candidat, mais il faut voir si d'ici là, la commission d'éthique ne nuit pas à ses projets.
Eh ben, on va suivre tout ça avec votre service, le service des sports d'RFI. Merci beaucoup, Alejandro Valente. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
On remercie évidemment Jafar qui nous appelait de Bujumbura, la capitale du Burundi. 10h20 à Paris. Je vous rappelle notre débat du jour dans 20 minutes maintenant consacré au dénouement de la crise au Burkina Faso. Le coup d'État en tout cas est terminé. Coup d'État raté. La page semble être tournée, mais il se pose un certain nombre de questions, notamment concernant l'avenir de l'auteur du coup d'État, le général Diène Déré. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur la République démocratique du Congo. Vous savez certainement, si vous nous écoutez tous les jours, que c'est une période pour le moins agitée sur la scène politique. Il y a des démissions, des révocations, il y a eu un nouveau gouvernement ce week-end, de nouvelles démissions depuis 15 jours. Bref, le camp de la majorité présidentielle subit séisme sur séisme, et le dernier événement en date, on vous en parle depuis deux jours maintenant, c'est la démission du puissant gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi. Il a claqué la porte du parti présidentiel, du parti de Joseph Kabila. C'est là d'ailleurs la première démission au sein du PPRD. Bonjour Léalisa Vesterov. Léalisa ?
Je suis là, vous m'entendez?
On vous entend, je suis ravi d'entendre votre voix. Vous êtes la correspondante d'RFI à Kinshasa. On est à 14 mois de l'élection présidentielle. C'est vrai que la démission de Moïse Katumbi est un coup dur, surtout que l'ex-gouverneur accuse le pouvoir, je cite, de dérive inacceptable et notamment de vouloir modifier la constitution. Alors, malheureusement, on n'arrive pas à rappeler son gars. Il est à Bukavu et il nous demandait qu'est-ce qui pousse tous ces ministres à démissionner les uns après les autres. Est-ce que c'est vraiment lié aux élections?
Alors oui, bien sûr, hein, c'est lié aux élections, enfin surtout au fait que ces élections prennent du retard, car je vous le rappelle, 7 scrutins sont prévus en République démocratique du Congo avant la présidentielle qui va se tenir fin 2016, et de plus en plus de voix disent craindre en fait une stratégie du pouvoir pour retarder la tenue de cette fameuse présidentielle fin 2016 et permettre ainsi au président sortant de se maintenir au pouvoir. Mais alors, pour revenir au début, et à la raison de ces démissions finalement de ces ministres, au départ tout commence par une lettre, hein, un courrier de ce qu'on appelle le G7, un groupe de 7 partis qui étaient membres de cette coalition au pouvoir. Et bien ce G7 a rendu public un courrier dans lequel il demande au président Joseph Kabila de veiller justement au respect de la Constitution et de tout faire pour éviter un glissement du calendrier électoral et d'être tenté par un troisième mandat. Alors cette lettre a eu l'effet d'une bombe. Résultat, le bureau politique de la majorité a décidé d'exclure les 7 partis auteurs de cette lettre et a suivi ensuite une sorte d'effet domino en fait. Hein, dans la même journée, pour revenir en détail, le président Joseph Kabila révoque l'un de ses conseillers et l'un de ses ministres, tous deux chefs de deux partis de ce G7, et suit ensuite une série de démissions dont parlait Sanga, 3 ministres nationaux, 4 ministres provinciaux, mais aussi le vice-président de l'Assemblée nationale, le rapporteur du Sénat. Bref, tous sont des membres de ces 7 partis dissidents.
Et tous ces ministres démissionnent pour quelles raisons alors ?
Eh bien, en solidarité d'abord avec leur parti, hein, qui se sont fait exclure de la majorité.
Léalisa ? Ah, nous avons perdu la liaison entre Paris et Kinshasa. On va essayer de rétablir ça évidemment dans un instant. En tout cas, sachez que si vous souhaitez commenter la situation politique en République démocratique du Congo, surtout n'hésitez pas, vous nous rejoignez. On peut en parler demain, le vendredi. Vous connaissez le principe du vendredi, c'est la libre antenne. Et vous commentez donc l'actualité de votre choix. Léalisa Vesterov est donc de retour, me dit-on, dans le casque. Vous nous disiez donc que ces ministres démissionnaient d'abord en solidarité avec leur parti. Et on me dit que, voilà, nous avons perdu Kinshasa. Alors on va essayer de rétablir tout ça calmement. Nous avons d'autres auditeurs évidemment sur d'autres questions d'actualité. Peut-être Idriss. Bonjour Idriss.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous nous appelez de Boisquet, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions concernant l'Afghanistan.
En effet, la semaine dernière, plusieurs centaines de talibans ont pris le contrôle de la ville de Kunduz, qui se trouve au nord de l'Afghanistan, après le violent combat qui s'est déroulé entre l'armée afghane et le taliban. Alors, j'aimerais savoir pourquoi l'armée américaine n'a pas secouru l'armée afghane lors des combats qui ont opposé le taliban avec l'armée afghane.
Oui, d'autant que cette ville, Kunduz, est une grande ville du nord de l'Afghanistan, une ville de 300 000 habitants. C'est d'ailleurs la première fois, depuis la chute des talibans il y a maintenant 14 ans, que les islamistes mettent la main aussi facilement sur la capitale d'une province. Bonjour Jean-Luc Racine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la géopolitique de l'Asie du Sud. Vous travaillez notamment sur la transition afghane. C'est vrai que les talibans se sont emparés très facilement finalement de Kunduz en quelques heures. Pourquoi les soldats américains qui sont encore présents en Afghanistan n'ont pas réagi, n'ont pas aidé l'armée afghane?
Ben, la vraie question n'est pas celle-là, en réalité.
Ben, c'est la question de l'auditeur.
Oui, mais je réponds à l'auditeur, bien sûr. La vraie question, c'est pourquoi quelques centaines de talibans, on les estimait à 500, 600, peut-être 700, qui se sont infiltrés pendant les fêtes de l'Eid, pourquoi ils ont pu pénétrer si facilement alors qu'il y a 6000, 7000 forces de l'ordre quand on combine l'armée, la police, etc. La question première, c'est pourquoi, et c'est une question qui a été posée entre autres au Parlement afghan et chez les observateurs afghans, pourquoi l'entrée des talibans a-t-elle été si facile? Les forces afghanes, pour l'essentiel, s'étant repliées sur l'aéroport tout à fait en dehors de la ville. Ouais. Pour répondre à la question de l'auditeur, il y a aujourd'hui plus que 13 000 forces de l'OTAN à travers tout le pays, à peu près 10 000 Américains. Leur objectif premier n'est pas de combattre, mais d'être des formateurs et des conseillers. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, où Kunduz a été reprise pour l'essentiel, elle a été reprise grâce à une coordination entre les forces spéciales afghanes et les conseillers spéciaux américains sur le terrain, et avec des opérations aérienne américaine. L'une des grandes faiblesses de l'armée afghane, c'est que elle n'a pas l'aviation nécessaire pour mener ce genre d'opération.
Oui, en tout cas, cette prise de Kunduz par les rebelles talibans, c'est un échec cuisant pour l'armée afghane. D'autant que vous nous dites qu'il y avait 5 à 7 000 soldats afghans dans cette ville face à quelques centaines de talibans.
Absolument. Ouais. Et la vraie question aujourd'hui, puisqu'il semble que depuis ce matin, la ville a été pour l'essentiel reprise, avec de fortes pertes côté taliban et apparemment pas de pertes côté des forces afghanes et de leurs conseillers sur place américains, la vraie question, elle est politique. Cette prise, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est la première fois que les talibans ont repris une grande ville. La lecture traditionnelle était de dire les talibans contrôlent les campagnes mais ils ne sont pas capables de contrôler les villes. C'est vrai qu'ils ne contrôlent pas la ville, mais on savait déjà depuis un jour ou deux que en cas d'assaut les talibans se combattraient pour une part mais se replieraient.
Alors Jean-Luc Racine, ne raccrochez pas parce que Idriss a une dernière question et il nous reste à peine une minute. Idriss.
Oui, j'aimerais savoir également qui concerne ma deuxième question. Depuis le retrait des troupes de l'OTAN de l'Afghanistan, j'aimerais savoir si les talibans gagnent du terrain dans le pays. Si oui, dans quelle province?
Alors, on a moins d'une minute, Jean-Luc Racine. Est-ce qu'on peut parler d'un retour en force des talibans?
Alors, retour en force, en tout cas, la présence est claire à travers non seulement leur bastion traditionnel de l'Est et du Sud, voisin du Pakistan, mais maintenant du Nord. L'histoire de Kunduz, ça ne date pas du début de la semaine. Ça fait plusieurs mois que les autorités, que les citoyens disaient « attention, les talibans progressent dans les campagnes, etc. » Donc oui, les talibans sont présents et se renforcent. Juste un an après l'arrivée au pouvoir du président Rani, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment interpréter cette poussée talibane? Est-ce que ça va contrarier ou à contre-coup, faciliter dans quelque temps la reprise des premières négociations qu'il y a eu en juillet dernier entre Kaboul et les talibans.
Merci Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. L'info continue sur RFI, tout de suite le journal.